Quand on néglige sa jeunesse, c'est dans le fond qu'on tombe en dépression et qu'on est incapable de préparer son avenir.
Ça ne veut plus rien dire, Lucien. C'est des merdeux, des cons.
Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune.
Ça. Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Le grand rendez-vous, la journée de l'Europe, vendredi 9 mai, place de la Victoire, Radio Campus, de 16 à 18h. Des quiz, théâtre d'impro, jeux, présentation de la fresque de l'Europe, photobooth, dégustation.
Les jeunes parlent de l'Europe sur Radio Campus 93.3.
C'est la journée de l'Europe, le grand rendez-vous européen, le jour symbolique de la déclaration Schuman en 1950. On célèbre l'Europe avec une journée festive, place de la Victoire à Clermont-Ferrand. Lecture sur l'Europe par des écoliers, collégiens, rencontres, échanges, débats au village européen installé. Il y a là autour de la table pour l'émission radio Lisa, ukrainienne, qui est en master interculturel européen et qui part en Erasmus l'année prochaine en Espagne. Mikita, italienne, qui travaille au niveau des relations internationales au niveau de la ville de Clermont-Ferrand au centre Europe Direct. Il y a Romain, président des Jeunes Européens Auvergne. Et Ludmila, une jeune lycéenne qui a commencé avec le lycée Gergovie à vivre un échange Erasmus avec de jeunes Autrichiens. L'année prochaine, pour elle, c'est le grand voyage. C'est Mathilde à l'animation qui a fait le plan de route, le conducteur comme on l'appelle. Ça sera simple et efficace. Le sentiment d'appartenance à l'Europe, la question de l'écologie et de l'éco-anxiété, et les jeunes, qu'est-ce qu'ils en pensent? Le positionnement de l'Europe dans le monde, qu'est-ce qui différencie les petits pays des grands pays au sein de cette union? L'institution, la liberté d'expression.
Il n'y avait pas de guerre en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. On a réalisé que dans plusieurs pays, on a, comment dire, on a peut-être laissé à côté, oui, la défense, et on a oublié qu'il faut développer cet point aussi. Et voilà, c'était... je crois que la guerre en Ukraine, c'était comme un petit rappel aux pays de l'Europe qui, oui, il faut peut-être développer aussi la défense parce que si la Russie vient là, il faut qu'on se batte. Et oui, c'est l'une des questions assez pertinentes pour l'instant.
Univox. Univox.
Les propos de Lisa, la jeune ukrainienne, me font réaliser que la guerre n'est plus un événement lointain ou impensable, que cela soit pour mes parents, pour ma génération Y, ou pour ceux qui viennent juste d'arriver, les millénials. Mais c'est bien une réalité, quelque chose qui s'ancre dans le champ des possibles. Quand j'étais étudiant en master, l'Europe, comme pour Mathilde, l'animatrice, c'était l'auberge espagnole, la possibilité de faire des Erasmus, de voyager, avec une forme d'insouciance, étudier, rencontrer, échanger, partager, faire la fête, au nord, au sud, à l'est, avec le sentiment d'appartenance qui s'en dégageait, quelque chose de plus grand et de plus fort que nous, qui nous dépassait. Nous n'avions pas connu la guerre et ne pensons jamais connaître un entre-deux comme les temps modernes semblent nous en proposer. On était presque dans du FOMO, l'acronyme de « Fear of Missing Out », peur de manquer quelque chose, comme cela a été conceptualisé depuis. Il fallait qu'on expérimente. Une connaissance est en voyage, on passe la voir, comme lorsque j'avais fait mon Erasmus à Berlin. Désolé, maintenant les choses sont un peu plus sérieuses, un peu moins rigolotes, mais l'enthousiasme de la jeunesse n'a pas disparu.
Mikita, tu veux peut-être...
Oui. Moi, j'ai laissé ma petite vie en Italie quand j'étais, j'avais 18 ans. Et je suis allée à étudier en Angleterre. Donc, j'ai fait 3 années à Londres. Moi, j'ai fait demi-année à Rouen, demi-année à Berlin, demi-année à Nice.
Ah oui,
j'ai bougé. Et Bruxelles, Turquie, etc. Donc, oui, j'ai voyagé. Et j'ai tout le temps eu ces sentiments européens qui, ça fait partie de moi. Et surtout quand j'étais à Bruxelles, j'ai senti qu'on se sentait tous les mêmes avec les autres. Il y avait des Espagnols, des Néerlandais, etc. De partout. Et on avait toutes les mêmes objectifs. C'était en effet d'être bien, d'être solidaire entre nous et d'avoir de la cohésion. Une chose qui maintenant en Europe, ça marche pas trop.
La cohésion, la solidarité, ça m'a rappelé que la dernière fois que j'ai parlé d'Europe sur cette place de la Victoire, c'était il y a presque 20 ans, le 29 mai 2005. Les Français votaient par référendum, comme beaucoup d'Européens. En France, le résultat était sans appel.
Il est 21h59 et 55 secondes. Voici maintenant notre estimation Ipsos des résultats de ce référendum. Les Français rejettent la Constitution européenne. Le non l'emporte largement, 55% contre 45% pour le oui. Un écart donc très important, le chiffre peut être affiné, mais le résultat est bien là. La victoire du non est incontestable et on aperçoit sur ces images la joie des partisans du non du côté du quartier général d'Henri Emmanueli, point de ralliement des partisans du non socialiste. Et puis du côté aussi du mouvement pour la France.
C'était un coup de tonnerre pour l'Union européenne. Mais de quoi parlait ce traité exactement et pourquoi a-t-il autant divisé? Le texte soumis au vote s'appelait le traité établissant une constitution pour l'Europe. L'idée, simplifier le fonctionnement de l'Union, clarifier les règles, donner une sorte de charte fondamentale. Un pas de plus vers une Europe plus intégrée, plus lisible. Mais à gauche, comme à droite, les critiques pleuvent. Certains y voyaient un texte trop libéral qui graverait dans le marbre la concurrence comme moteur de l'Union européenne. D'autres dénonçaient un manque de démocratie, une Europe gouvernée par des élites éloignées des peuples. Et puis il y a ceux qui disaient simplement « on ne comprend rien à ce texte ». Et alors, les jeunes, aujourd'hui, leur sentiment d'appartenance?
Robin, qu'est-ce qui t'a fait le déclic? Je suis européen.
Alors, je me suis toujours un peu senti européen, mais c'est vrai que depuis mon entrée à l'université, cet engagement, enfin, ce sentiment d'appartenance, il s'est assez accru, notamment par le biais de mon engagement chez les jeunes européens, où là, aujourd'hui, je ne pose plus aucune question. Je me sens pleinement appartenir à l'Union européenne. Et puis, bon, du moment où on est citoyenne et citoyen français, on est forcément citoyenne et citoyen européen. Donc vu que maintenant je me pose aucune question là-dessus, c'est pour ça que maintenant que j'essaye d'informer, de sensibiliser les autres pour essayer de faire en sorte que le public auquel on s'adresse se sente davantage européen.
Si quelqu'un me demande si je me sens européenne, je pourrais dire que oui, certainement. Et je pense que plusieurs Ukrainiennes vont partager mon opinion. Parce que même si on ne fait pas la partie de l'Union européenne, on partage les mêmes valeurs que les valeurs de l'Union européenne. Et même là, en France, en tant que la réfugiée, je ne vais pas avoir les mêmes droits que les gens qui habitent en France. Et concernant l'Erasmus, de qui tu avais parlé, par exemple, moi, je pars en Espagne l'année prochaine. Et du coup, c'est aussi le programme Erasmus. Et moi, j'ai le droit à ce programme, c'est que ça m'a permis de me sentir comme européenne. Et voilà, j'aime bien qu'on a des opportunités comme ça et que tout le monde est ouvert, même vers, on va dire, les pays qui ne font pas partie de l'Union européenne.
C'est une question des valeurs. Et c'est de réaffirmer des valeurs qui maintenant en Europe aussi, dans l'Union européenne, sont un peu perdus ou ne sont pas assez forts comme ils étaient avant ou juste après la guerre. L'Union européenne a été, comme on a juste dit, a été créée par une volonté de ne plus jamais avoir qu'est-ce qui est passé, bah maintenant ces valeurs là est mise en discussion. Et l'Europe, l'Union européenne, il faut être fort sur ces valeurs là.
Alors pour moi c'est, enfin je vais plus parler au nom des jeunes. Pour moi je pense que Erasmus c'est un très bon moyen de voir l'Union européenne et vraiment de se sentir citoyen dans l'Union européenne bien sûr. Moi personnellement c'est ma professeure qui m'a beaucoup poussée à faire ça et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant et ça m'a vraiment permis de connaître et d'apprendre plus sur l'Union européenne et justement de voyager aussi. Tout le monde n'a pas l'habitude et ne peut pas, on ne peut pas tous voyager et je trouve que voilà, c'est très important et vraiment très bien.
Moi j'ai eu l'opportunité de travailler au Centre Europe Direct un petit peu et ce que j'ai noté que parfois il y a des cas qui malheureusement les gens ils savent pas grand chose sur l'Union européenne et ils sont pas intéressés de l'Union européenne et du coup je voulais dire que peut-être il faut faire quelque chose pour savoir les raisons pourquoi les gens ils sont pas intéressés d'être partie de l'Union européenne et aussi peut-être faire plus d'opportunités pour les étudiantes, les employés, et pour être plus ouvert au international, aux échanges.
Je trouve cette génération totalement lucide, pleine d'entrain et de joie de vivre. Elle veut croquer la vie à pleines dents, tout en ne négligeant pas les choses qui, aujourd'hui, pourraient faire du tort aux générations futures. On se retrouve exactement avec ce sentiment de culpabilité que peuvent porter aujourd'hui nos anciens, en nous regardant, en disant « mais quel monde on leur a laissé ?» Un petit peu comme la jeunesse allemande d'après-guerre, qui regardait ceux qui avaient participé à cette Seconde Guerre mondiale, là où l'humanité a atteint le tréfonds de l'horreur, en disant « mais papa, maman, vous y avez participé, vous, à ça ?» Une chose est sûre, c'est que notre Europe n'est pas l'Europe de Nicolas. Nicolas, c'est l'invité surprise, l'ancien, le sage de la table, celui qui est venu nous dire ce que dans les années 60-70, l'Europe représentait pour lui.
À ma génération, quand l'Europe a démarré, en 57, bon, moi j'étais tout gosse, bon, mais quand même, dans les années 60-70, où l'Europe prenait son envol et se développait, il y avait encore beaucoup, je crois, l'idée, moi je suis né après la guerre, mais quand même, mes parents, etc., enfin bon, la guerre était encore... La Deuxième Guerre mondiale était encore présente beaucoup dans les esprits dans les années 50 quand l'Europe s'est créée. Hein. Vous savez que l'Europe s'est créée largement pour qu'il n'y ait pas à nouveau de guerre en Europe, malheureusement. Bon. Et donc, on était quand même, quand j'avais 15-20 ans, on était assez imprégnés par nos parents de cette idée que l'Europe avait le grand avantage de permettre d'éviter une nouvelle guerre en Europe, puisque... la France et l'Allemagne en particulier se sont réconciliés. Mais après, ce sentiment-là a disparu, parce que l'idée d'une guerre en Europe disparaissait complètement, en fait. Ça nous paraissait complètement impossible. Enfin, c'était... Mais en fait, mon sentiment européen s'est renforcé, par contre. Chacun a ses idées et ses conceptions, mais moi, personnellement, je pense que l'Europe est une chance pour la France et que je me sens vraiment français et européen. Voilà. Et de plus en plus. De plus en plus français et de plus en plus européen. C'est absolument pas contradictoire, bien sûr.
On se sent éloigné, enfin, les citoyennes et les citoyens se sentent éloignés de l'Union européenne parce que l'Union européenne, elle est assez complexe. Elle est très compliquée, par exemple, typiquement. Il y a aussi un important déficit démocratique. Si on regarde le Parlement européen aujourd'hui, qui est la seule institution de l'Union européenne à être élue au suffrage universel direct, c'est une institution qui ne dispose pas d'autant de pouvoir qu'elle ne devrait. C'est-à-dire qu'elle ne c'est pas une institution qui va pouvoir avoir l'initiative des textes, parce que c'est la Commission européenne et les commissaires européens ils sont nommés par les États. Donc là, c'est un constat qu'on peut faire et ça serait bien quand même d'améliorer ce point. Mais à côté de ça, à mon avis, il faut aussi jouer le jeu dès le plus jeune âge à l'école, développer des enseignements, enfin dans le cadre de l'enseignement moral et civique ou dans les cadres du cours d'histoire-géographie où aujourd'hui on se rend compte que dans les programmes scolaires, on ne parle pas forcément assez d'Europe. Et ça, c'est un vrai problème, alors que l'Union européenne, elle nous entoure aujourd'hui. Elle est là au quotidien. Et c'est aussi la raison pour laquelle les associations, le Centre Obiarek, par exemple, nous aussi, les jeunes européens, on va essayer de développer des modes d'éducation populaire. Par les pairs, PIRS, du coup, de parler de jeunes aux jeunes, des choses qui intéressent les jeunes. Donc l'idée, c'est vraiment d'utiliser des outils pédagogiques, interactifs, qui donnent envie pour derrière eh bien, que les jeunes, souvent ceux qui vont être éloignés des questions européennes, se sentent un peu plus appartenir à l'Union européenne. Du moins, c'est ce qu'on essaye de faire au quotidien. Univox.
Le constat est plutôt positif. Les jeunes européens se sentent dans leur majorité à la fois citoyens de leur pays et citoyens de l'Union. Ils ont grandi avec l'euro, les voyages sans frontières, Erasmus, la possibilité d'étudier, de travailler, de s'installer dans un autre pays. L'Europe fait partie de leur quotidien. Mais attention, ce sentiment d'appartenance n'est pas uniforme. Il varie selon les pays, le niveau de vie, l'accès à l'éducation ou encore le rapport à la politique. En Irlande ou au Portugal, beaucoup de jeunes se disent très attachés à l'Union européenne. En Hongrie, en République tchèque, c'est beaucoup moins le cas. Et un certain scepticisme commence à poindre le bout de son nez. L'Europe paraît trop lointaine, trop technocratique, pas assez démocratique. Bref, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça se traduit dans les urnes? Est-ce que les jeunes votent aux élections européennes? Ils votent moins que les autres, mais ça change. En 2019, la participation des jeunes a bondi. Plus de 40% des 18-24 ans sont allés voter. C'est bien mieux que les 28% en 2014. Pourquoi ? Parce qu'ils se sentaient concernés par des enjeux très concrets. Le climat, les droits sociaux, les libertés, la montée des extrêmes.
Et si on en revient au pacte vert, actuellement, à l'échelle de l'Union européenne, le pacte vert, il est un peu mis en pause. Aujourd'hui, ils sont même en train de détricoter. Pardon, merci. Pourquoi ? Parce que y a la montée des partis nationalistes dans chaque État. Les États commencent à se refermer sur eux-mêmes, de se dire, comme disait Mikita, il y a d'autres choses à faire avant de penser à l'écologie, au climat. Donc voilà, le pacte vert aujourd'hui est un peu en pause. On préfère aujourd'hui mettre en avant des objectifs économiques, de compétitivité économique, au lieu de lier compétitivité et écologie, au lieu de tendre vers une forme d'économie circulaire, et au lieu de tendre vers une transition écologique. Aujourd'hui, il y a de réelles questions qui sont en train de se poser. Et c'est assez inquiétant. Et c'est assez inquiétant, pourquoi ? Parce que on voit au niveau du Parlement européen que si on lit un peu les résultats des élections européennes du mois de juin, que les partis d'extrême droite ont pris beaucoup plus de place, beaucoup plus de sièges au Parlement, que les partis écologistes moins. La crainte, c'est que les textes proposés par la Commission ne passent pas. Et même encore, faut-il que la Commission propose des textes qui soient ambitieux sur le plan écologique. Quelle solution à part ça? La seule solution, c'est nous, les citoyennes et les citoyens, essayer d'agir à notre niveau. Mais c'est évidemment pas suffisant parce que ça doit être tout un consortium d'acteurs, les institutions, mais aussi le rôle joué par les entreprises, par les sociétés, par les ONG, par les multinationales qui, elles, exercent un lobby quand même assez important au niveau de la Commission européenne, pour essayer de tirer à leur avantage les politiques européennes.
Moi, il me semblait, d'après ce que j'avais retenu de mes cours il y a quelques années, c'est qu'on était plutôt autosuffisant, enfin en tout cas en France, oui. Au niveau de l'agroalimentaire. Déjà, si on diminue les consommations, les quantités de viande, on n'a pas des problèmes, c'est qu'une histoire d'argent en fait.
Ouais. Après, il n'y a pas que la viande, y a plein.
Puis y a, pour nourrir les animaux aussi, il y a ça aussi.
On peut venir des fruits, des légumes, de l'huile de palme avec pour le tout ce qui est Nutella, tout ça. Donc,
pesticides, l'implantation des pesticides aussi.
Oui, parce qu'on on impose à juste titre des normes en termes de pesticides, mais c'est pour le bien-être des personnes qui les utilisent et puis pour le bien-être de la population. Et après, on dit, en même temps, on fait rentrer par la petite porte d'autres produits qui ont été produits dans des conditions où il n'y avait pas toutes ces normes. Et donc,
débat touche à sa fin, je peux m'empêcher de faire une analogie entre la jeunesse européenne actuelle, son rapport à l'Europe, ses doutes, ses espoirs, ses anxiétés face au futur, et la chanson « Quand tu allais, on revenait » du groupe IAM, qui parle du regard des anciens sur les jeunes générations et du temps qui passe, avec un fond de mélancolie, d'orgueil et de transmission. Aujourd'hui, ce sont les jeunes qui pourraient renvoyer la formule à l'Europe. Quand vous construisiez, nous doutions. Quand vous rêviez d'un marché commun, nous vivons une planète commune en surchauffe. Quand vous parliez croissance, nous parlons survie. Quand vous alliez vers l'avenir, nous revenions à l'urgence. Les jeunes Européens ont grandi dans une Europe déjà là, déjà faite, parfois imposée. Ils n'ont pas brandi le drapeau bleu étoilé parfois, mais parce que c'était là, une évidence autant qu'une énigme. Et pourtant, ils s'y accrochent, avec prudence, par envie d'agir, pas de subir. Ils veulent une Europe qui ressemble à demain, pas à un traité d'avant. Une Europe plus verte, plus sociale, plus juste. Et si elle ne l'est pas, ils la critiquent, ils s'en détachent, ils s'inquiètent. Ce n'est pas du désintérêt, c'est de l'éco-anxiété, du lucide amour inquiet, une attente d'Europe debout, pas d'Europe fatiguée. Mais les jeunes d'aujourd'hui pourraient répondre à l'Europe avec la même sagesse désabusée, parce que leur présent, c'est le prix de nos décisions passées, et leur avenir, ils veulent le reprendre en main, pas juste l'hériter. Alors non, les jeunes ne tournent pas le dos à l'Europe. Ils la regardent droit dans les yeux, ils lui demandent de changer de cap. Parce que maintenant, quand l'Europe avance, ils veulent marcher devant.